Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Où se cache le tireur de Strasbourg? 700 policiers et gendarmes sont à sa recherche depuis hier soir et sa folie meurtrière. Un appel à témoins vient d'être lancé contre ce terroriste présumé aux très nombreux antécédents judiciaires. La ville, encore sous le choc, panse ses plaies et pleure ses victimes. 2 morts, 13 blessés. Quant aux gilets jaunes, ils hésitent sur la stratégie à adopter. Arrêter le mouvement ou continuer? La balance semble pencher vers l'organisation d'un acte 5 samedi. En Grande-Bretagne, Theresa May joue en ce moment sa survie politique, confrontée à un vote de défiance au sein de son propre camp. C'est son avenir qui est en jeu, mais aussi celui du processus sur le Brexit. On sera en direct de Londres dans ce journal. Et puis une soirée de mercredi très sportive avec le foot, la Ligue des Champions, Lyon face au Shakhtar Donetsk. Simon Rubin, vous suivez ce match en direct de Kiev. Rencontre qui a mal commencé pour l'OL.
Et oui, à la mi-temps, l'Olympique Lyonnais est mené 1-0. Ambiance de Noël ici pour ce match sous la neige, mais pas de cadeau pour l'instant. L'OL est éliminé de la Ligue des Champions.
On espère que le Père Noël va passer en deuxième mi-temps. Merci Simon Rubin en direct de Kiev. Direction Nantes maintenant, où les handballeuses françaises affrontent la Serbie avec à la clé une place en demi-finale de l'Euro. Christophe Lamar et des Françaises qui dominent.
Effectivement, elles mènent de 10 buts, les Françaises face aux Serbes, 26-16 après 10 minutes en deuxième période. Autant vous dire que là, Alexis Cell est en train de leur faire un véritable triomphe, parce qu'on ne voit pas comment cette équipe de France ne pourrait pas se qualifier pour les demi-finales. En tout cas, elles sont en route pour Paris, les Françaises.
Énorme ambiance, on entend derrière vous, énorme ambiance en direct de Nantes. Christophe Lamar, que l'on retrouvera tout comme Simon Rubin dans le courant de ce journal. Et puis, votre rendez-vous tous les soirs avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil, qui reçoit ce soir à 22h20 le directeur général du PMU, Cyril Linette.
Europe 1.
Et la chasse à l'homme qui se poursuit donc à Strasbourg pour retrouver l'individu qui a tué 2 personnes hier soir et en a blessé 13 autres, dont une est en état de mort cérébrale. La police nationale a décidé ce soir de lancer un appel à témoins pour tenter de localiser le tireur avec son nom, Shérif Shekat, et avec sa photo, celle d'un homme de 29 ans, 1m80, portant une marque plus foncée sur le front à la lisière des cheveux. Appel à témoins diffusé sur les réseaux sociaux et que vous pouvez également retrouver sur le site internet europe1.fr. Toute personne ayant des informations permettant de le localiser doit contacter le 197, mais surtout ne pas intervenir seul. Il est encore probablement armé. Le tireur, qui est activement traqué donc par plus de 700 policiers et gendarmes, on sait qu'il a été blessé par balle à la main hier par les militaires qui l'ont poursuivi. 4 de ses proches ont été placés aujourd'hui en garde à vue. Alors qu'on en sait plus sur son profil, Shérif Shekat est originaire de Strasbourg. Il est fiché S et il a donc un lourd parcours judiciaire, comme l'a confirmé aujourd'hui Rémi Heitz, il est le procureur du parquet antiterroriste.
Il est très connu des services de police et de justice, principalement pour des faits de vol et de violence. Son casier judiciaire supporte 27 condamnations pour des faits de droit commun commis pour la quasi-totalité en France, mais aussi en Allemagne et également en Suisse. Il a déjà été incarcéré à de multiples reprises et était connu de l'administration pénitentiaire pour sa radicalisation. Il était inscrit au FSPRT et il était fiché S. Il a fait l'objet d'un suivi par les services de la DGSI.
Les précisions du procureur du parquet antiterroriste Rémi Heitz, il était au micro européen d'Arthur Elmbaché. Des nouvelles des victimes maintenant, des blessés qui sont accueillis dans 3 hôpitaux de Strasbourg et des environs, notamment au CHU de Haute-Pierre où vous vous trouvez, Pierre Herbulot. Pierre, depuis ce matin, les proches se succèdent à l'hôpital.
Oui, des amis, des frères, des sœurs, des parents, des enfants aussi qui arrivent le visage grave, la peur au ventre, celle d'entendre un diagnostic terrible. Dans le hall, 2 femmes fondent en larmes. L'un de leurs proches, Kamal, touché à la tête, est en état de mort cérébrale. Massi, son voisin.
Vous voyez le nombre de personnes qui vient ici? C'est une personne qui était aimée comme tout un chacun. C'est une très bonne personne. On a le dégoût. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? On a une personne de la communauté, une famille, une personne qui a été aimée, qui vient de partir. On ne peut pas ressentir autre chose que du dégoût.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est passée voir les blessés autour de 17h. Elle a salué le travail des urgentistes, notamment celui du docteur Pascal Bilbao, responsable du SAMU. Il détaille le profil des blessés.
Nombre d'hommes et femmes, en gros, c'est équilibré. Et l'âge, c'est entre 20 ans et 65 ans à peu près. Un âge moyen, si vous voulez, des personnes en bonne santé, qui se promenaient, qui vivaient, si vous voulez, ou qui vivent encore. Heureusement, il y a quelques personnes qui ont eu des blessures légères, qui ont pu être soignées et qui sont rentrées à domicile dès ce matin. Voilà, d'autres vont rentrer dans peu de temps, mais il y en a d'autres qui sont toujours dans les services de réanimation pour lesquels l'avenir se joue au jour le jour, quoi, si vous voulez.
Le responsable du SAMU qui dit n'avoir jamais vu autant de blessés par balle en même temps et qui en a profité pour remercier ses équipes qui se sont mobilisées spontanément et qui sont retournées à l'hôpital hier dès qu'elles ont entendu parler de l'attaque.
Le reportage de Pierre Herbulot à Strasbourg. Strasbourg où plusieurs cérémonies se sont déroulées ce soir, des cérémonies œcuméniques auxquelles assistait notamment Patricia.
Ça me paraît très important de marquer un temps de silence et de recueillement. Enfin, Strasbourg ne ressemble plus à ce qu'il était hier. Hier, c'était encore la frénésie commerciale et la frénésie de Noël. Aujourd'hui, c'est le silence, il n'y a plus personne dans les rues, il y a beaucoup de policiers. Je crois qu'il ne faut pas que la barbarie et que la violence gagnent. Il faut absolument qu'on ait des lieux, et les églises sont des lieux où on peut se poser, où on peut se ressourcer, où on peut penser aux victimes, aux familles. Ça me paraissait absolument indispensable. Moi, je suis restée confinée jusqu'à 2h du matin hier soir parce que j'étais à un concert à la Cité de la Musique. Donc voilà, il ne faut pas en rester là.
Patricia, habitante de Strasbourg, elle était au micro Europe 1 de Charlotte Bechler. La menace terroriste a été au cœur du Conseil des ministres ce matin. Et ce soir, Édouard Philippe annonce que le président a décidé d'accroître la mobilisation dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ce sont 500 militaires qui, dès aujourd'hui, sont venus compléter le dispositif et 1300 qui, dans les jours qui viennent, s'ajouteront donc à ceux déjà mobilisés pour assurer la sécurisation des sites et garantir la sécurité des Français à quelques jours des fêtes de fin d'année. Alors, dans ces circonstances, l'acte 5 des Gilets jaunes sera-t-il maintenu samedi? Beaucoup d'entre eux ont exprimé aujourd'hui leur solidarité avec les victimes de Strasbourg, mais restent déterminés à faire entendre leur colère dans la rue ou autour des ronds-points, malgré les mesures annoncées lundi soir par le chef de l'État. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région Rhône-Alpes. Vous vous trouvez à Fézin, dans le sud de Lyon. Est-ce que les Gilets jaunes entendent l'appel lancé par plusieurs responsables politiques à stopper ce mouvement?
Alors ils l'entendent, mais ils n'ont absolument pas l'intention d'arrêter ce mouvement. Ce n'est pas leur intention. Ils sont toujours focalisés en fait sur l'intervention du président de la République lundi soir, sur ces annonces insuffisantes à leurs yeux. C'est le cœur de leur discours. Donc pour eux, quel que soit ce qui se passe autour, le combat continue plus que jamais. Des Gilets jaunes qui, à l'image de Colette, retraitée, se sont même vexés de ne plus faire la une ce matin. Écoutez.
Depuis ce matin, on parle plus de nous sur les trois chaînes BFM, LCI et CNews. On ne parle que de Strasbourg.
Vous avez l'impression de passer au second plan?
Au second plan, aux oubliettes. J'ai pas entendu un mot sur nous. C'est comme si c'était entériné.
Alors sur ce rond-point, d'autres comme Francis vont encore plus loin à propos de l'attentat de Strasbourg et évoquent, alors si ce n'est un complot, tout au moins une diversion organisée par le pouvoir.
Moi je pense que ça a été voulu par l'État français pour une raison très simple, mettre l'état d'urgence et dire on arrête tout. Complot, j'irai pas jusqu'à là quand même, mais je dirais que diversion, organisée, oui. Faire une pause, surtout pas.
Alors le mouvement continue et les Gilets jaunes lyonnais annoncent d'ores et déjà des actions pour ce week-end. Du coup, le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui ce matin était sur le marché de Noël de la ville, en a profité pour lancer un appel aux Gilets jaunes.
On voit bien que la police nationale, les militaires sont pris par ces mouvements. Du coup, ils ne peuvent être partout. Donc si on veut assurer la sécurité des Français, y compris d'ailleurs des Gilets jaunes, je leur dis que c'est mieux que dans les prochains week-ends, il y ait effectivement un peu de retenue.
Voilà, donc on saura samedi si l'appel de Gérard Collomb a été entendu.
Reportage de Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en région Rhône-Alpes. Ce matin, le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, en a appelé à la responsabilité générale. Il a dit espérer qu'il y aura moins de manifestations samedi, mais il a aussi précisé que malgré l'activation de l'urgence attentat, qui est le plus haut niveau du plan Vigipirate, les manifestations ne devraient théoriquement pas être interdites ce week-end. Restez avec nous dans un instant à la suite de votre journal sur Europe 1 et on ira notamment à Londres où Theresa May vient de remporter le vote de défiance qui avait été organisé contre elle. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h11, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal et l'avenir politique de Theresa May qui se jouait ce soir puisque les députés de son propre camp, les conservateurs, n'avaient pas du tout digéré l'annonce du report du vote sur l'accord sur le Brexit. Ils avaient donc décidé de voter ce soir pour ou contre leur leader. Alors on vient tout juste d'avoir les résultats et on vous retrouve en direct de Londres, Sébastien Krebs. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Theresa May qui a donc remporté finalement ce vote de défiance.
Oui, elle garde donc la confiance de ses propres députés, ceux de son camp conservateur, puisque ce sont eux qui votaient. C'est évidemment une victoire politique pour elle. On sait que le parti est très divisé sur sa façon de gérer le Brexit. Les conservateurs se sont comptés et c'est une défaite pour ceux qui contestent Theresa May, ceux qui veulent un Brexit dur et qui refusent l'accord qu'elle a signé avec Bruxelles. Une victoire, mais attention, 200 députés ont voté pour la soutenir, mais 117 ont voté pour la renverser. Ça veut dire qu'un gros tiers de sa majorité la conteste. C'est beaucoup et ça la met malgré tout dans une position plus qu'inconfortable pour aller négocier d'éventuels ajustements à Bruxelles, dès demain d'ailleurs au Conseil européen. Et puis elle reste à la merci de l'opposition. Cette fois, si les travaillistes décidaient d'organiser un vote de censure du Parlement tout entier. Cette fois, vous voyez que la tempête n'a pas fini de souffler sur Westminster. Theresa May, elle a attendu les résultats à Downing Street et il est possible qu'elle s'exprime un peu plus tard dans la soirée.
Merci beaucoup en tout cas Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1. Vous étiez en direct de Londres. L'Espagne vient quant à elle de prendre une mesure radicale contre la pauvreté, une hausse du salaire minimum de 22% qui sera effective dès l'année prochaine. Le salaire minimum passera donc de 860 € à 1050 € brut. Il s'agit de la plus forte hausse depuis 40 ans. L'avertissement émane du secrétaire général de l'ONU en matière de changement climatique. Les questions politiques clés ne sont pas résolues. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Antonio Guterres devant les participants de la COP21 qui se tient, vous le savez, en ce moment en Pologne. Le foot, après la qualification du PSG hier soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce soir, c'est Lyon qui joue son avenir européen à Kiev face au Shakhtar Donetsk. C'est l'ultime match de la phase de poule. Kiev, où l'on vous retrouve en direct, Simon Rubin, toujours sous la neige et toujours avec des Lyonnais en difficulté.
Exactement 50e minute de jeu en ce moment même et à l'instant c'est le Shakhtar Donetsk qui s'est procuré une occasion extrêmement dangereuse et qui a failli doubler la mise puisque les Ukrainiens mènent 1-0 depuis la 22e minute de jeu. Alors Lyon en l'état actuel des choses est éliminé de la Ligue des Champions et rejoindrait la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europa. Il suffit aux Lyonnais de faire ce soir match nul pour arracher cette qualification en 8e de finale et pour l'instant eh bien ils sont menés, ils ont eu les occasions les Lyonnais à l'image de Nabil Fekir notamment, qui a trouvé par deux fois le gardien face à lui, et des joueurs ukrainiens du Shakhtar Donetsk eh bien, qui jouent crânement leur chance, qui sont parfois plus rapides dans les phases offensives, capables aussi sans doute de mieux gérer ce temps d'hiver, ce temps difficile. Il neige beaucoup ici sur Kiev, température négative évidemment, et pour l'instant, les Lyonnais en difficulté. Il leur reste maintenant 40 minutes pour renverser la vapeur et arracher cette qualification. Ils sont toujours menés 1-0 ici.
Merci Simon Rubin en direct de Kiev. On vous retrouvera d'ici 22h30 pour faire un nouveau point. Et puis il y a également du handball ce soir. Les Français affrontent la Serbie à Nantes. En jeu, une place pour les demi-finales de l'Euro. Christophe Lamarre, on peut dire que c'est plus que bien parti là.
Oui. Franchement, il faudrait une catastrophe, quelque chose de rarement vu dans le handball pour que l'équipe de France perde cette rencontre. À 10 minutes de la fin, les Bleus qui comptent 9 buts d'avance face aux Serbes qui ont totalement explosé en début de seconde période. Elles ont encaissé un 7-2 qui sera donc probablement fatal. L'équipe de France qui va donc rejoindre la demi-finale pour la troisième fois consécutive, il faut le savoir. Hein. Les Bleus étaient évidemment demi-finalistes au jeu. Elles sont allées chercher l'argent. Demi-finalistes l'an dernier en Allemagne. Elles sont allées chercher l'or. Elles sont championnes du monde en titre. Et là, eh bien, cette demi-finale à Paris qui leur tend les bras grâce notamment à une extraordinaire Estelle Nzeminko. 6 buts ce soir. Mais que dire également de Manon Wett sur son aile gauche. 6 buts également pour la Française. Et voilà comment cette équipe de France donc est en train de s'ouvrir très grand les portes des demi-finales. En ce qui concerne l'adversaire, il faut rester prudent, mais ce pourrait être probablement les Pays-Bas. Vendredi soir à 10 minutes de la fin, la France qui mène de 10 buts, 31-21
merci
face à la
beaucoup.
Serbie.
Merci Christophe Lamarre en direct de Nantes. Notez que 4 matchs de Ligue 1 initialement prévus ce week-end sont reportés. Caen-Toulouse, Nantes-Montpellier, Marseille-Bordeaux et Nice-Saint-Etienne. Report à la demande des préfectures en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions. Et puis on a appris ce soir la mort du jeune rugbyman de l'équipe espoir du Stade français, Nicolas Chauvin. Il avait été victime d'un arrêt cardiaque dimanche en plein match à Bègles après un plaquage. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Et vous nous annoncez, Elena, une nouvelle séquence pluvieuse sur l'ouest pour demain.
Oui, des pluies plus régulières que celles qu'on a eues aujourd'hui. Elles s'étendront sur les régions qui bordent l'Atlantique en matinée, puis elles gagneront le sud-ouest et s'étendront cette fois jusqu'aux Alpes du Sud et la Corse l'après-midi. En fin de journée, les pluies se renforceront sur le Roussillon. Sur les autres régions, votre matinée sera marquée par la grisaille. Attention au brouillard localement givrant sur une grande partie nord-est jusqu'en région parisienne. Des brouillards persistants l'après-midi. Les meilleures chances d'éclaircies seront finalement pour la Normandie, le centre, la Bourgogne, la Franche-Comté. Les températures, elles seront mordantes, hein, avec de nombreux gelées degrés le matin sur la moitié nord et le centre du pays, moins 6 à Nevers, moins 4 à Montluçon, moins 3 à Charleville-Mézières, à Lyon, moins 1 à Lille, Strasbourg ou Brive-la-Gaillarde, 0 pour Paris ou Nîmes, 1 degré à Caen, à Nantes et Montpellier, jusqu'à 7 quand même à Biarritz et Ajaccio. Guère mieux l'après-midi avec en prime une bise qui accentuera cette sensation de froid. On ira de 0 degré à Langres jusqu'à 8 à Toulouse, 3 pour Le Havre, Paris et Annecy. Plus doux près de la Méditerranée avec 11 à 14 degrés. Le froid se maintiendra jusqu'à samedi. La douceur reviendra avec la pluie pour le week-end. En attendant, votre vendredi sera froid mais beau.
La météo signée, Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général du PMU, Cyril Linette. A tout de suite sur Europe 1. Et à 22h18 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Wall Street signe une belle séance ce soir.
Oui, ça monte pour les indices. Le Dow Jones gagne 0,64%, 24 527 points. Le Nasdaq lui avance de 0,95%, 7 098 points. C'est encore le conflit commercial qui a dominé l'actualité pendant la séance avec un Donald Trump rassurant pour les investisseurs. Le président américain s'est dit prêt à dialoguer avec Pékin et pourquoi pas à rencontrer à nouveau le président chinois. Ça profite aux valeurs technologiques sensibles à la question commerciale. Cisco Systems gagne 0,7%, Microsoft plus 0,4%, Intel plus 0,9%, Apple plus 0,3%. Ça fait monter aussi le secteur automobile avec Ford qui gagne 1,2% et General Motors plus 2,9%. Le pétrole est en hausse, le baril de brut léger américain gagne 1%, juste au-dessus de 51$. Côté devise, l'euro avance de 0,5% face au dollar. On est à 1,1372 et la livre sterling a bondi de 1,2% face au billet vert. En attendant le verdict pour Theresa May, vous en parlez dans le journal, la première ministre britannique a surmonté ce soir le vote de défiance des conservateurs opposé à son projet de Brexit.
Et l'optimisme était également au menu à Paris aujourd'hui.
Avec une nouvelle séance de rebond pour le CAC 40, un fort rebond même de 2,15% qui permet au CAC 40 de terminer à 4 909 points. Le titre Air France KLM monte de 4,2%. La compagnie Air France a nommé Anne Rigail directrice générale. Anne Rigail travaille chez Air France depuis 27 ans. C'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste. Et puis Pernod Ricard bondit de 5,9%. Le fonds américain Elliott a pris plus de 2,5% du capital du groupe. Il souhaite améliorer les performances de Pernod Ricard qui, selon lui, a perdu des parts de marché dans des segments clés. Ça réveille la valeur qui signe sa plus forte progression depuis plus de 3 ans.
Et on peut dire que tous les secteurs sont dans le vert ce soir.
Hein. Oui, on notera la belle progression des valeurs bancaires avec Crédit Agricole, par exemple, qui monte de 3,5%. C'est bien aussi pour le luxe. Kering bénéficie d'une note positive de la Deutsche Bank. Le titre monte de 2,6%. LVMH plus 2 et Hermès plus 0,5%. Ailleurs en Europe, la séance a été positive. Londres gagne 1,1%. Francfort plus 1,4%. Bruxelles plus 2, Madrid plus 1,3, Zurich plus 1,7, Milan plus 1,9 et à Paris, le CAC 40 bondit de 2,1% à 4 909 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet, Claire Lemaître. Et à 22h21 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité Écho. Avec vous Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Emmanuel, le directeur général du PMU.
Bonsoir Cyril Linette.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête du PMU et d'ici quelques jours, ça va être la révolution chez vous. Ce sera le 10 janvier, on va avoir un nouveau Quintet Plus et c'est véritablement la révolution parce que c'est votre produit phare. De ce que j'ai lu, vous voulez plus récompenser les vrais joueurs, les turfistes et laisser un petit peu moins de place au hasard, mais pourquoi donc ?
Oui, parce que le PMU, c'est vrai que dans le contexte concurrentiel, les paris sportifs, le loto, c'est un peu perdu à mon sens par rapport à son ADN depuis quelques années, toujours au nom de la pseudo-conquête, on parlera peut-être de conquête tout à l'heure. Or, le PMU, c'est quand même avant tout un jeu turfiste, le quintet qui consiste quand même à trouver les 5 chevaux dans l'ordre, c'est un jeu très difficile et on estimait que le quintet, dans sa formule actuelle, ne récompensait pas suffisamment l'expertise et la sagacité des parieurs qui passent du temps pour essayer de trouver la bonne formule. La base de clients du PMU, c'est une base de turfistes. ils sont à peu près 1 million, ils font 80-90% du chiffre d'affaires. Ils aiment le jeu du PMU, ils aiment trouver les bons chevaux, ils aiment trouver les combinaisons, ils aiment les tuyaux. Et s'ils trouvent, ils ont besoin d'avoir des gains, d'avoir la sagacité récompensée. Donc je pense que
et
la conquête.
C'est un gain doublé, c'est ça?
Oui,
en
gros, l'idée,
ceux
c'est
qui...
de. Ouais, pour ceux qui trouveraient le rapport dans l'ordre ou le quintet dans le désordre, l'idée, c'est de doubler les gains pour effectivement les amener à revenir sur ce pari qui est important pour le PMU, parce que c'est un pari, c'est le pari phare, en fait, hein, du PMU, à la fois en termes d'enjeu, mais aussi en termes de marge. Donc l'économie du PMU dépend beaucoup du quintet plus, en attendant, bien sûr, peut-être, d'aller plus loin dans la rénovation de la gamme de Paris.
Aller plus loin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire avoir moins d'offres, mais des offres plus simples où on peut jouer plus facilement?
Oui, le premier chantier, c'est
vous
vraiment.
Êtes un peu comme un opérateur téléphonique, finalement, vous essayez de,
exactement,
de simplifier tout ça.
Tout à fait. Le premier chantier, c'est ce qu'on fait en janvier. Il y a d'autres mesures que je ne vais pas détailler, mais qui consistent à avoir un peu plus d'empathie pour les parieurs, on l'a dit. Le deuxième chantier, ça va être de simplifier la gamme et de simplifier un peu l'expertise et d'être un peu plus clair dans ce qu'on propose pour aller peut-être toucher un peu plus les gens qui jouent au pari sportif mais qui ne jouent pas au pari hippique. Les paris hippiques sont des paris sportifs. Il faut qu'on arrive à raconter cette histoire. Et dans une offre très foisonnante et qui nécessite d'être foisonnante parce que nos parieurs jouent beaucoup, il y a des courses toute la journée, il faut bien comprendre ça. Il y a des courses sur divers hippodromes toute la journée, toute la semaine, et c'est important pour nos turfistes. Mais pour toucher une autre clientèle, il faut être capable de faire émerger une offre un peu plus simple, un peu plus ludique, peut-être le week-end, avec des courses sportives mieux exposées médiatiquement, pour aller adresser une clientèle un peu élargie.
Et ça, c'est durant le premier semestre que vous allez faire ce gros travail, hein.
On va essayer. C'est de mettre un peu de marketing, en fait, tout simplement. D'avoir une offre qui satisfait les turfistes, et de mettre un peu de marketing pour aller toucher des joueurs de jeux d'argent, mais qui ne sont pas intéressés aujourd'hui par les jeux du turf.
Vous avez comparé avec les paris sportifs. Généralement, quand on parie sur le foot, quand on parie sur le volley, quand on parie sur le tennis, c'est qu'on a une appétence pour ce sport. En tout cas, c'est ce que disent les sondages. Le problème chez vous, c'est que vous avez du mal à conquérir les plus jeunes, à conquérir de nouveaux joueurs, parce que justement, souvent, ça paraît compliqué. Et puis, disons-le peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu has-been, un petit peu passé de mode aujourd'hui.
Mais tout à fait. Mais en fait, la réalité, au fond des choses, c'est que ce sont des paris sportifs super intéressants, super sympas quand on prend la peine de s'y intéresser, sur des courses hippiques qui sont un vrai spectacle. Mais ça n'est pas perçu et raconté comme ça, vous avez raison. Donc une fois qu'on aura remis nos turfistes à bord, il faut qu'on raconte une histoire, qu'on explique pourquoi jouer au paris hippique. D'abord, on a la possibilité de le faire toute la journée et c'est sympa parce que c'est valorisant de trouver la bonne combinaison et ça repose sur pas une expertise très affirmée, mais sur un vrai travail. Donc, c'est quelque chose qui est valorisant au-delà du gain. Et puis, que les courses hippiques, si on s'intéresse et si on arrive, nous, à faire émerger une offre un peu plus visible qu'aujourd'hui, notamment sur les grands médias, ça mérite aussi de s'y intéresser. En gros,
c'est-à-dire
je pense que c'est un produit.
Vous voulez concrètement qu'à nouveau, vous soyez diffusé sur une grande chaîne pour le Quintet Plus?
Oui, parce qu'encore une fois, c'est la même segmentation.
Vous êtes sur LCI, hein, c'est ça aujourd'hui?
Oui, pour le Quintet, effectivement. Mais nos turfistes, ils ont Paris Turf pour la presse écrite, ils ont l'accès aux données sur Internet, ils ont Equidia pour regarder. Regarder la télévision et suivre les courses toute la journée. Mais les gens qui s'intéressent au sport, les gens qui s'intéressent au jeu, qui ne nous voient pas, il y a 92% de la population française qui ne voit plus le PMU, eux, il faut les toucher par des médias un peu plus larges. Et c'est ça, effectivement, l'idée, raconter une histoire sur des médias sportifs ou sur des grands médias nationaux un peu plus larges qu'aujourd'hui. Et pour ça, il faut simplifier l'offre et en faire émerger, je dirais, la quintessence.
Vous avez aussi, dans le contexte actuel, hein, de la crise des Gilets jaunes, une vertu de lien social. Aller faire son PMU au café du coin, c'est peut-être quelque chose qu'on est beaucoup d'entre nous à avoir oublié, mais c'est un moment festif aussi. Est-ce que vous avez, dans ce contexte, hein, actuel, ce lien social à développer?
Je crois, on a effectivement 240 hippodromes, vous l'avez dit, ça compte. On a 13 500 points de vente sur tout le territoire français, donc on a un vrai rôle, effectivement, un vrai maillage territorial. On a aussi le financement d'une filière, parce qu'il faut rappeler le modèle du PMU. Hein, l'objectif du PMU, c'est de ne pas faire de marge.
Et vous êtes un
c'est
groupement d'intérêt économique. Voilà. Cherchais ce que vous voulez dire.
Et le résultat net, une fois qu'on a défalqué le retour, évidemment, aux joueurs, l'impôt et puis les charges propres du PMU, l'objectif, c'est de nourrir, entre guillemets, de financer la filière hippique, donc les dizaines de milliers d'emplois qui sont liés au monde du cheval, que ce soit lié au sport, les jockeys, les entraîneurs et autres, mais que ce soit des vétérinaires, des maréchaux ferrants et ainsi de suite. Donc il y a une vraie vocation sociale qui se matérialise dans la redistribution effectivement du produit du PMU, mais aussi dans ce maillage territorial via les
points
de vente.
Mais vous sentez une sorte de responsabilité dans la petite musique de l'actualité que l'on entend en ce moment?
Absolument.
Justement, dans cette... c'est aussi une forme de défense de la ruralité, une forme de défense de ces petites villes. Hein. Je viens de Nantes, à Châteaubriand par exemple, il y a un très grand hippodrome. qui fait vivre un peu la ville aussi en partie.
Absolument, on se reconnaît tout à fait. Notre clientèle est assez populaire, donc c'est assez facile effectivement de faire le lien. On voit d'ailleurs que nos chiffres du mois de décembre ne sont pas très bons, donc ça paraît assez logique, je pense, par rapport à ce qu'on vit et qui dépasse largement évidemment le cadre de notre activité. Mais oui, je pense qu'il y a une vraie corrélation et que cette responsabilité de lien social, que l'État d'ailleurs nous assigne également, est importante.
Vous avez signalé le nombre de points de vente que vous aviez, mais vous êtes distribué aussi chez les buralistes et il se murmure que vous pourriez un petit peu mieux les rémunérer pour leur donner envie de mieux vous vendre aussi, puisque pour faire très simple, c'est plus intéressant pour eux de vendre un jouet à grattage de la Française des Jeux qu'un pari. C'est vrai,
ouais.
Vous allez mieux les rémunérer?
Oui, on a fait quelques efforts. Alors, on ne l'a pas encore annoncé, donc je ne peux pas vous donner de nouvelles.
Personne ne nous écoute,
rassurez-vous. Je suis sûr que beaucoup de monde nous écoute. Non, non. Globalement, c'est vrai qu'on va essayer d'améliorer effectivement les conditions de rémunération et puis globalement de relations entre le PMU et nos points de vente, notamment les buralistes. En général, les points de vente aiment le PMU pour les raisons que vous avez décrites, c'est-à-dire que voilà, c'est du lien social, c'est une clientèle qui consomme, il y a une vraie passion. Souvent, ceux qui tiennent les points de vente sont eux-mêmes des passionnés du Paris Olympique, donc il y a tout ça. Mais effectivement, la qualité de service et la rémunération sont des éléments importants pour eux.
On va terminer, Cyril Linette, par une petite question d'actualité. Emmanuel Macron a annoncé avant-hier qu'il demandait aux entreprises de donner une prime, là, à la fin de l'année, à celles qui peuvent le faire. Vous allez le faire au PMU?
Alors, c'est un petit peu tôt pour en parler. Ça fait que 2 jours, donc il faut qu'on regarde. On a une année très difficile.
Mais en tout cas, vous n'êtes
pas à regarder. On va regarder, mais ce ne sera pas simple. Honnêtement, je préfère être franc. On a une année très difficile. Coupe du monde de foot, la concurrence des paris sportifs. Voilà, une année qui ne s'est pas très, très bien passée, qui ne se termine pas très bien pour les raisons un peu macroéconomiques dont on a parlé. On a une filière, parce qu'encore une fois, le PMU, il faut voir aussi les hippodromes, enfin l'ensemble qui est aujourd'hui déficitaire. Donc, je ne peux pas dire que le signe sera très facile à donner.
Eh bien, merci en tout cas d'être passé ce soir par Europe 1. Cyril Linette, qui est donc à la tête du PMU, était notre invité. On se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup et on vous dit à demain, effectivement, Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Et puis, on retournera voir ce que donne le match entre Lyon et le Shakhtar Donetsk. Les Lyonnais qui sont revenus au score, un partout pour l'instant, but de Nabil Fekir. À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Nuit de terreur, titre Libération. Votre journal revient sur ce périple meurtrier hier soir au cœur de la capitale alsacienne à Strasbourg et sur le profil du tireur présumé et son lourd passé judiciaire. Terrorisme, gardez les yeux ouverts, titre le journal La Croix. L'attaque de Strasbourg prouve que la menace terroriste n'a pas disparu. Comment accroître notre vigilance? Le journal L'Opinion titre quant à lui sur l'appel de Macron aux entreprises. Le président a réuni aujourd'hui à l'Élysée une centaine de représentants d'entreprises françaises dans le cadre de la mobilisation générale. « J'ai besoin de vous », leur a-t-il dit. « Notre modèle économique et social est au bout du rouleau. Nous devons en reconstruire un ensemble. » Hier, le président avait reçu les banquiers et la semaine prochaine, ce sera au tour des assureurs et des mutualistes. Et c'est aussi le sujet qu'a choisi de mettre en une les Échos. Déficit, les entreprises mises à contribution. « Macron est-il fini ?» titre pour sa part Courrier International. La presse étrangère s'interroge sur la capacité à réformer d'un président dont la crédibilité est largement entamée, tandis que Paris Match revient sur la disparition de Johnny Hallyday. Un an déjà, et ces grands photographes qui racontent dans Paris Match leur idole. Voilà pour ce tour d'horizon rapide des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et on va tout de suite repartir à Kiev, rejoindre Simon Rubin, le foot de la Ligue des Champions, Lyon qui joue contre le Shakhtar Donetsk et qui s'est repris, qui a égalisé, Simon.
Absolument, 69e minute de jeu et un partout entre le Shakhtar Donetsk et Lyon. C'est un but signé Nabil Fekir qui remet les Lyonnais dans le bon sens. Nabil Fekir qui contrôle à l'entrée de la surface de réparation et qui sur un pas enroule son ballon. Le but lyonnais donc, l'égalisation et surtout Lyon qui pour le moment est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le Shakhtar Donetsk qui va jouer chèrement sa peau et qui va tenter le tout pour le tout. Maintenant, il reste un peu plus de 20 minutes dans cette rencontre. 20 minutes pour les Ukrainiens pour repasser devant. Et les Lyonnais, eux, qui vont devoir faire corps, être solidaires pour tenir et arracher cette qualification. Pour l'instant, c'est le cas à Lyon qui fait match nul un partout après 70 minutes de jeu.
Merci beaucoup Simon Rubin en direct de Kiev et puis on l'a suivi également en direct ce soir sur Europe 1, l'Euro de handball à Nantes et les Françaises qui ont très largement battu les Serbes. Ça y est, le match est terminé. 38-28 pour les Françaises qui se qualifient donc pour les demi-finales qui auront lieu vendredi à Paris et nos Bleus affronteront les Pays-Bas.